Prions pour commencer à remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. Une parole qui est si riche d'enseignements, si riche d'instructions pour nos vies. Merci de prendre le temps, Seigneur, de nous parler, de nous guider, de nous enseigner. On te demande, Seigneur, de disposer de notre être tout entier, afin qu'une fois de plus, ta parole, Seigneur, puisse trouver un terrain qui lui est favorable, afin, Seigneur, de s'enraciner, de croître, et de porter un fruit qui va être agréable, qui va être utile pour l'avancement de ton royaume dès aujourd'hui, mais pour aussi le restant de notre existence. Merci pour ma sœur et mon frère qui se joignent respectivement à nous ce matin. Que ta grâce leur soit accordée, que ta bénédiction reste et demeure sur eux. Et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous. On va vous inviter tout simplement à ouvrir vos Bibles dans Jacques au chapitre 5. Ce matin, nous tirons notre enseignement des versets 19 et 20. On a déjà étudié à travers les deux dernières journées les versets 16 à 18. On va les relire simplement pour avoir une idée du contexte dans lequel Jacques écrit à l'Église. Mais par la suite, on va relire donc le verset 19 et 20 une deuxième fois. Donc, j'y vais pour vous à partir du verset 16. La Bible nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Je reprends les versets 19 et 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Alors, tel que le titre de l'enseignement de cette semaine l'indique, nous sommes dans une semaine de restauration. Et on a vu à travers les deux dernières journées l'importance de l'intercession en vue de la restauration de nos frères et de nos sœurs et l'importance de la confession en vue d'une restauration ferme, solide de celui qui aurait pu s'égarer. Et aujourd'hui, on va un peu plus clairement dans la question de l'éloignement, dans la question de l'égarement, parce que pour être restauré, pour revenir à Dieu, encore faut-il savoir comment on peut s'en être éloigné. Alors le texte d'aujourd'hui nous dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. » Je répète, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. » Alors la première chose que je vous dirais, c'est que Jacques s'adresse à des croyants. Le terme qu'il utilise ici, « frère », c'est « adelphos ». Adelphos qui veut dire, qui parle de la fratrie, donc les frères issus de mêmes parents ou d'une même mère ou d'un même père, des compatriotes, des collègues, des gens qui sont associés, qui sont confrères, des gens qui sont aussi des congrégants. C'est un terme très liturgique qu'on retrouve pas nécessairement dans tous les dictionnaires parce que c'est un terme technique, mais qui veut dire qui appartiennent à une même congrégation, donc des congrégants, ou des gens, pour Adelphos, qui partagent une même foi. Et simplement pour donner une explication du terme Adelphos, je vous expliquerai ce que veut dire le nom Philadelphie. Philadelphie, en anglais, on appelle le dicton qu'on donne à Philadelphie, c'est the city of the brotherly love, la ville de l'amour fraternel. Philadelphie est composée de deux termes grecs, philos ou philéos, qui est l'amour fraternel, et Delphie, qui parle de frère. Donc l'amour fraternel, Philadelphie. Lorsque, ici, dans le cas de Jacques, il ne parle bien sûr pas de Philadelphie, bien qu'une ville, Philadelphie, existait déjà à l'époque en Asie mineure, mais on parle plutôt d'Adelphos, et qui parle effectivement de frères. Jacques ne parle pas nécessairement à des frères dans la chair, non plus à des compatriotes purs, mais il s'adresse à des frères en la foi. Et à ceci, il leur dit, « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité. » Ça veut donc dire que Jacques était en train de prévenir ses frères en la foi ou de les aviser sur quoi faire, quoi ne pas faire, si quelqu'un venait à dévier du chemin de Dieu. Donc Jacques s'adresse à des croyants, Jacques s'adresse à l'Église. Est-ce que c'est l'Église nécessairement de Jérusalem? Est-ce que la lettre était envoyée à d'autres? C'est pas nécessairement clair. Chose certaine, c'est que cette lettre nous parvient à nous aujourd'hui, et cette lettre est parole de Dieu. Cette lettre est Logos. Et dans ce Logos, Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, « Frères, voici ce qui peut arriver. Des gens parmi vous, des frères parmi vous, peuvent s'égarer loin de la vérité. Et dans un tel cas, voici ce qu'il vous faut faire. » Et c'est important de savoir que Jacques s'adresse à des frères en la foi. Ça veut donc dire qu'effectivement, un frère peut s'égarer et peut se perdre. Jacques le dit clairement. Pour Jacques, il n'y a pas de questionnement à savoir si je suis un frère, est-ce que je peux vraiment m'éloigner? Il y a cette doctrine qui court encore aujourd'hui où si quelqu'un s'éloigne des voies de Dieu et venait à se perdre, c'est qu'il n'a pas nécessairement vraiment connu le Seigneur et qu'il n'a pas nécessairement vraiment été un frère. Ici, Jacques dit, parmi vous, il y en a qui peuvent s'égarer. Et de surcroît à ça, il est en train de dire, s'ils s'égarent, voici comment vous pouvez les ramener à la maison. Donc oui, le salut peut se perdre, c'est une croyance que nous avons. On croit que la Bible l'enseigne comme quoi, effectivement, si nous nous éloignons de Dieu, nous pouvons perdre notre salut. Et voilà pourquoi il est important de savoir, ben, comment je reviens à la grâce de Dieu et comment je reviens en présence de mon Seigneur et comment je me réapproprie le salut gagné par Christ à la croix. Et voilà aussi pourquoi il est important de savoir qu'il nous est possible et qu'il est un travail et un devoir d'intercéder pour les frères qui se sont éloignés et de faire notre travail pour les ramener dans l'assemblée des saints. Donc oui, un frère peut s'égarer. Et oui, un frère peut aller se perdre loin de la vérité. Jacques va adresser ses conseils à l'Église parce qu'il est important que le corps de Christ, j'hésite à utiliser le terme Église, mais je vais l'expliquer tout à l'heure, il est important que l'Église ou le corps de Christ puisse savoir comment réagir et comment offrir une action ciblée lorsque quelqu'un s'égare loin de la vérité. Est-ce qu'on doit avoir une attitude attentiste qui se dit, ben, de toute manière, c'est son choix, il s'est éloigné, il s'en va, qu'il en paye le prix, ou devons-nous fournir des efforts pour regagner cet homme ou cette femme pour Christ? Je crois que Jacques est assez clair en disant que si quelqu'un s'éloigne, qu'un autre puisse l'y ramener. Donc, je crois qu'il est important que le corps de Christ soit impliqué dans ce travail et dans cette préoccupation de ramener dans la bergerie des âmes qui se seraient perdues. Mettons quelques dièses ou quelques bémols là-dessus. Pourquoi je parle du corps de Christ et non pas de l'Église? C'est que très souvent, lorsqu'on parle de l'Église, certains frères et sœurs vont limiter le travail à la question des anciens, voire à la question des ministres officiels de l'Église, donc des pasteurs, des apôtres, des évangélistes ou autres. Et si je ne cadre pas dans ces cinq nominations de ministères telles que la Bible l'enseigne, ben à ce moment-là, la responsabilité n'est pas sur moi. Ici, Jacques parle aux frères. Et les frères sont l'ensemble des congrégants, l'ensemble des frères en la foi. Alors, il est la responsabilité de l'ensemble du corps de Christ. Voilà pourquoi je préfère utiliser le terme corps de Christ, pour que tu te sentes, pour que vous vous sentiez impliqués aussi dans ce travail d'intercession en faveur de ceux qui se sont éloignés, mais aussi ce travail d'atteinte, ce travail de proximité avec ceux qui se seraient éloignés. Ce n'est pas la responsabilité seule et unique des pasteurs ou des anciens d'une assemblée, ou des responsables d'une église, ou des chefs de département d'une église, c'est la responsabilité de tout un chacun. L'église dans son ensemble, quelle que soit la position des uns et des autres, doit pouvoir offrir une action ciblée face à l'égard d'un frère ou d'une sœur qui se serait éloigné. Donc, il est important que tu te sentes impliqué et que tu te sentes interpellé par le passage que nous étudions actuellement. Il est important que tu œuvres toi aussi à aller chercher ces frères et ces sœurs qui pourraient avoir délaissé les voies du Seigneur. Deuxième bémol ou deuxième dièse que je rajouterai. Il est évident que la décision ne peut pas être prise à la place du frère ou de la sœur. Au même titre où lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est une décision personnelle, c'est pas une décision de notre père, de notre mère, de notre sœur, de notre frère, de notre mari, de notre épouse, c'est une décision qui doit venir de façon très personnelle. Et voilà pourquoi, contrairement à l'Église traditionnelle, à l'Église catholique, qui va baptiser les enfants, en conférant ainsi aux enfants qui sont encore des bébés naissants, un statut de sauvé, nous ne baptisons pas les enfants parce qu'à la base, ce n'est pas prescrit par la parole de Dieu. L'enseignement qui nous est indiqué par la parole de Dieu, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent à vivre pour Dieu, qui s'engagent à avoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, ce qu'un poupon ne peut faire. Donc, si cette foi initiale, si cette conversion initiale devait se faire par décision délibérée d'un individu, le retour à Christ dans le cas de quelqu'un qui se serait éloigné doit être aussi une décision réfléchie et délibérée d'un individu qui comprend sa situation. Donc oui, nous ne pouvons pas prendre la décision à la place d'un frère ou d'une sœur qui se sont éloignés. Mais même si nous ne pouvons pas prendre la décision à leur égard, il est quand même de notre responsabilité de nous acquitter de notre travail d'intercession et de nous acquitter de notre travail de témoin pour approcher ces gens. Au même titre où on approche aussi des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, lorsque nous pensons à un frère, à une sœur qui se sont éloignés, nous devons aussi nous faire notre travail. Donc l'évangélisation auprès des inconvertis, l'évangélisation auprès de ceux qu'on appellerait des rétrogrades, donc des gens qui ont rétrogradé de leur statut de foi avec Dieu ou qui se sont éloignés du chemin du Seigneur. Pourquoi c'est important de savoir qu'il est de notre responsabilité de nous acquitter de ce travail d'aller chercher un frère ou une sœur qui s'est éloigné. Mais parce que ce frère ou cette sœur qui s'est éloigné, ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi. Et j'espère que si c'était mon cas, si c'était ton cas, qu'il se trouverait quelqu'un pour effectivement s'acquitter de sa tâche et venir m'aviser, venir t'aviser, venir me parler et me témoigner comme quoi effectivement je suis en train de m'éloigner des voies de Dieu. Alors au même titre où ça serait prioritaire pour moi et ça serait profitable pour mon existence et pour ma vie éternelle que quelqu'un vienne me dire « Florent, tu es en train de t'éloigner, Florent, tu es en train de faire fausse route », il est aussi important pour nos frères et nos sœurs que nous fassions de même. Donc oui, c'est la responsabilité de l'Église avec un grand E, c'est la responsabilité du corps de Christ avec dans son ensemble, ce qui veut dire que c'est aussi ta responsabilité et c'est aussi ma responsabilité. Non pas parce que je suis pasteur, mais tout simplement parce que, comme vous, je suis une partie prenante du corps de Christ. Et cette responsabilité d'aller réchapper des âmes qui se seraient éloignées, c'est notre tâche tout aussi importante que d'aller gagner les inconvertis qui ne se sont pas encore tournés vers Christ. Parlons maintenant de ce que veut dire s'égarer. Parce que certaines personnes, parce qu'ils fréquentent l'Église une ou deux fois par année, peuvent avoir cette pensée comme quoi ils sont corrects. Quelques personnes, parce que ils prient avant le repas, peuvent avoir cette pensée qu'ils sont dans les voies de Dieu. Alors, je crois qu'il est important d'expliquer ce que veut dire s'égarer. Le terme s'égarer, c'est le terme grec planao. Planao, P-L-A-N-A-O, pour ceux qui prennent des notes, P-L-A-N-A-O. Et qui veut dire, et sans s'étendre dans le grec antique, duquel est constitué le Nouveau Testament, que dans le grec moderne. Lorsqu'on regarde les racines grecques modernes, puisque c'est quand même deux langues assez différentes, avec les mêmes sonorités, mais avec un vocabulaire et avec une grammaire qui est un peu différente. Donc, lorsqu'on regarde tant dans le grec antique que dans le grec moderne, lorsqu'on parle de planao, lorsqu'on parle de planer, lorsqu'on parle de planeo, hein, qui sont des verbes ou des mots de la même famille, on parle de l'exercice de dévier d'un point. Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement une bifurcation rapide ou radicale, mais dans ce planao, on a un peu l'idée de ces feuilles qui planent dans le ciel et qui graduellement, et ça va être bientôt la saison ici au Québec, où les feuilles vont changer de couleur et vont se mettre à tomber. J'en ai déjà quelques-unes qui sont tombées sur mon terrain. Ben, les feuilles tombent et puis virevoltent dans les airs, partent à droite, partent à gauche. Et c'est cette idée-là où petit à petit, graduellement, on se distance de l'endroit initial d'où nous avons amorcé notre distanciation ou notre éloignement. Donc, c'est dévier, c'est se distancer, c'est se détourner. Et dans un sens plus intellectuel, voire psychologique, c'est se fourvoyer. Donc, s'amener dans l'erreur, se tromper soi-même au niveau intellectuel, chuter, errer dans le sens je virevolte à droite, je virevolte à gauche, j'avance, je recule, je m'en vais dans des chemins un peu détournés. Et c'est le même terme au niveau du parler dans le sens de divaguer. Ça veut dire je dis des choses, mais les choses perdent leur sens graduellement. Donc, il y a cet éloignement qui est graduel. Mais lorsqu'on s'égare, on s'égare de quoi? Et je vais vous donner trois choses importantes desquelles on s'égare. On s'égare tout d'abord de l'objectif qui était le nôtre. Lorsque je me dirige vers un endroit et que je me perds, c'est donc qu'à un moment donné, je laisse de côté l'endroit que je fixais vers lequel je m'en allais et je m'éloigne de cet objectif qui était l'objectif final. Donc, dévier de son objectif. C'est dévier aussi d'un endroit où je pourrais être arrivé. Lorsqu'on parle d'une feuille qui se détache de l'arbre et qui s'en éloigne, donc c'est qu'elle avait un port d'attache, elle avait un ancrage quelque part et elle s'en est un peu éloignée. Un peu comme une barque qu'on attache à un quai et à un moment donné, pour une raison ou une autre, la corde va rompre et la barque va commencer à s'éloigner, va commencer à flotter au loin du quai. Et si on ne voit pas la scène se passer dans les plus brefs délais, le lendemain matin, quand on se réveille, la barque pourrait être au milieu du lac, voire hors de portée de vue. Donc, il y a cette pensée, oui, de s'éloigner de l'objectif initial qui était le nôtre, mais aussi de s'éloigner des acquis qui étaient déjà atteints, s'éloigner des choses que nous avons déjà apprises, que nous avons déjà connues et sans aller loin de celles-ci. Enfin, s'égarer, c'est aussi se tromper de chemin, c'est aussi dévier du chemin qui était prescrit pour toi et pour moi. Lorsque, et ça c'est coutume chez les hommes, beaucoup plus que chez les dames, mais lorsqu'on s'éloigne très souvent, on a perdu notre chemin, mais on veut faire croire aux gens autour de nous qu'on sait encore où on s'en va et que finalement, on va y arriver. Puis après être passé 6 ou 7 fois devant la station-service ou le garage dans les 15 dernières minutes, on est obligé d'admettre qu'on doit s'arrêter au garage pour aller chercher quelques indications. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'avec la technologie moderne, avec les cellulaires intelligents, les téléphones intelligents, on a ce qu'on appelle des GPS qui sont inscrits dans nos téléphones qui permettent de retrouver notre chemin plus facilement. Jacques invite plus ou moins les frères et les sœurs dans la foi à être ce genre de GPS pour leurs frères, pour leur fratrie, pour leurs confrères, pour leurs frères en la foi, qui, s'ils s'éloignent, être capables de les ramener comme des GPS dans le bon chemin, pour les ramener vers l'objectif, pour les ramener vers les choses auxquelles ils s'étaient autrefois ancrés, mais desquelles ils se sont distanciés, et aussi se ramener dans le droit chemin. Rappelons-nous ce fameux verset dans le psaume 23 où David dit que le Seigneur le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur a un sentier qui est juste, il existe aussi des sentiers qui ne sont pas justes. Et la Bible nous dit que le chemin qui mène à Dieu, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand on s'éloigne du chemin, on s'éloigne effectivement de notre Seigneur. Donc on s'égare d'un objectif, on s'égare des acquis de notre vie chrétienne déjà atteint et on peut aussi s'éloigner tout simplement du chemin qu'on était en train de suivre. Et ça, c'est le terme donc planao. S'égarer loin de la vérité. Jacques va être encore même un peu plus précis. Il ne va pas simplement laisser ça dans la métaphore du chemin, mais il va dire s'éloigner de la vérité. Donc, s'éloigner loin de la vérité, loin, c'est le terme apo. APO, APO, et le terme vérité, un terme qu'on a déjà étudié à quelques reprises depuis le début du confinement, vous rappellerez de ce terme grec, aletheia, aletheia, si vous voulez, A-L-E-T-H-E-I-A, je répète, A-L-E-T-H-E-I-A. Alors, le aletheia parle de la vérité. Et quand on dit la vérité, ça veut donc dire que le restant n'est pas la vérité. Alors, s'éloigner loin de la vérité, c'est dévier de l'objectif. Quel était-il cet objectif? Le plan divin de Dieu pour notre vie. Chacun d'entre nous, on a été créé avec un propos, avec une pensée, de la part du Seigneur. Chacun d'entre nous, on a été créé avec un projet divin sur notre vie. Nous n'avons pas été créés simplement pour passer ici-bas sur Terre 80 ans sans rien amener à notre Seigneur et sans servir dans le royaume de Dieu. Nous avons été créés avec une pensée, avec un objectif défini par notre Créateur. Et lorsqu'on se dévie de l'objectif, lorsqu'on dévie de l'objectif divin, on est en train de dévier du plan de Dieu pour notre vie. Et bien que plusieurs personnes se disent « Ah, mais de toute manière, je suis sauvé », c'est quand même triste de savoir que j'aurais pu passer 80 ans sur cette terre et ne pas avoir accompli ce que Dieu voulait que j'accomplisse. De dire que Dieu a pensé à moi de toute éternité, j'étais dans les projets de Dieu de toute éternité, jusqu'à ce que la journée de ma naissance arrive, et lorsque je nais, je commence à vivre une existence qui n'aurait, durant toute sa durée, aucunement le désir, l'objectif, la vision d'accomplir le propos pour lequel, de toute éternité, j'ai été pensé et planifié. Alors, il est important pour toi et pour moi qui comprenons que nous avons été créés avec un objectif, de veiller à chercher quel est cet objectif, de veiller à chercher la face de Dieu afin qu'il nous indique, mais quel était le plan avec ma venue sur terre? Quel était le plan que Dieu voulait accomplir à travers mon existence ici-bas sur terre? Donc, ne pas s'éloigner, ne pas s'égarer, ne pas se distancier du plan divin pour notre vie. S'égarer loin de la vérité, apo aletheia, ça veut dire quoi aussi au-delà du plan divin? Ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, s'éloigner des acquis déjà atteints. Et là, c'est s'éloigner de la vérité que nous avons déjà reconnue comme étant véridique, véritable et vraie. Je fais exprès d'utiliser des termes redondants. Le bon français nous dit qu'on doit éviter la redondance, mais dans un tel cas, je fais exprès pour que ce soit plus clair dans l'esprit de chacun. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous éloigner de ce que nous avons déjà reconnu comme vrai, véridique et véritable. Il y a des gens qui, à un moment donné, se séparent de Dieu. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont parcouru un certain laps de chemin ou une certaine durée dans leur parcours et à un moment donné, dévient pour X raisons. Je vous ai déjà dit que moi, personnellement, j'ai déjà dit à Dieu, regarde mon dos parce que c'est la dernière chose que tu vois de moi, je m'en vais. Et effectivement, je suis parti dans les voies qui étaient nullement celles que Dieu avait pour moi. Mais même si on s'éloigne, il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui sait que nous avions connu la vérité et qui sait que nous avions reconnu la vérité. Alors, plus je m'éloigne, plus je me bats malgré tout avec moi-même et je me bats avec la voix de l'Esprit-Saint qui me parle et qui me rappelle ce que j'avais déclaré, ce que j'avais connu et ce que j'avais reconnu comme étant la vérité. Donc, dévier du plan divin, c'est une chose, mais il y a aussi la déviation de ce que j'avais reconnu comme étant vrai. Alors, il y aura toujours ce combat à l'intérieur de moi et ce mal-être au tréfonds de mon existence qui fait que je sais ce qui est vrai, je sais quelle est la vérité et je sais que délibérément, je suis en train de m'en éloigner et je sais le coût rattaché à s'éloigner de cette vérité. Alors, pour plusieurs personnes qui dévient de la voie de Dieu, il ne faut pas croire que c'est nécessairement la tranquillité et la paix. Ils peuvent avoir donné l'impression, effectivement, de vivre la belle vie, d'avoir du plaisir à droite et à gauche, à tire-larigot. Mais il arrive des moments où ils sont confrontés avec la question de l'éternité. Il arrive des moments où ils sont confrontés avec la propre raison de leur existence. Il arrive des moments où ils sont confrontés avec le départ de quelqu'un, avec un mal-être à l'intérieur, et ils savent que la seule issue, la seule vérité qui existe s'appelle Christ. et ce dilemme de s'en être éloigné rend l'existence pénible et douloureuse. Alors pour ne pas connaître cette telle chose, je dois aussi veiller à ne pas m'éloigner des voies de Dieu. Et finalement, dévier de la vérité, comme on disait tout à l'heure, c'est dévier du chemin prescrit. Et je l'expliquais il y a quelques instants, qui est le chemin? Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je m'éloigne du chemin, ben je m'éloigne aussi de la vérité. Si je m'éloigne du chemin et de la vérité, je m'éloigne aussi de la vie. Alors il est capital pour nous qui connaissons le chemin, pour nous qui avons reconnu la vérité, pour nous qui avons connu la vraie vie, il est important que nous aussi soyons des agents entre les mains de Dieu et au service de Dieu pour faire en sorte que nos frères qui s'éloigneraient de cette vérité, qui s'éloigneraient de l'objectif divin pour leur vie, qui s'éloigneraient de ce qu'ils ont préalablement reconnu comme vrai, que nous soyons des agents pour les réchapper et pour les ramener auprès du Seigneur et auprès du chemin que eux aussi doivent suivre. Il est important de faire ça, sachant que si ça m'arrivait à moi, je serais tellement reconnaissant que quelqu'un, à un moment donné, ait fait l'effort nécessaire pour me ramener dans le droit chemin. Alors, c'est capital que nous comprenions qu'il est de notre responsabilité à chacun d'entre nous. D'œuvrer effectivement au réchappement ou au réchappage, je ne sais pas quel serait le terme, mais de travailler à réchapper nos frères et nos sœurs qui seraient en train de s'éloigner des chemins de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité unique du pasteur, ce n'est pas la responsabilité unique des anciens de l'Église, c'est la responsabilité de toute l'Assemblée, c'est la responsabilité de l'ensemble des croyants d'œuvrer non seulement à gagner pour Christ de nouvelles âmes, mais aussi à gagner pour Christ des âmes qui s'étaient éloignées et qui doivent revenir. Un peu comme le père dans l'histoire du fils prodigue qui vient accueillir son fils et qui le ramène dans la maison et qui le réchappe afin qu'il soit rétabli dans la gloire et rétabli dans la bénédiction d'antan et d'autrefois. Alors voilà, c'était ce que nous avions pour nous ce matin. Prions suite à cet enseignement et je vais donner quelques indications pour la suite des choses après cette prière. Alors merci Seigneur de ce que lorsque nous nous éloignons, tu veux encore que nous nous réapprochions de toi. Merci Seigneur que lorsque on se sépare du chemin que nous devions suivre, tu continues à nous appeler, à nous interpeller. Et tu appelles nos frères et nos sœurs à faire ainsi à notre égard. Au même titre, Seigneur, où tu nous appelles aussi à veiller sur nos bien-aimés qui pourraient s'être éloignés. À veiller, Seigneur, sur nos frères et nos sœurs qui pourraient prendre un chemin tortueux qui s'éloigne de toi. Seigneur, je prie que lorsque tu regardes parmi nous ce matin, tu vois des hommes, des femmes qui sont effectivement dévoués à réchapper leurs frères, dévoués à atteindre ceux qui se sont éloignés pour les ramener à l'Église. Non pas, Seigneur, en oubliant aussi ceux qui ne sont jamais venus à la bergerie, ceux qui ne t'ont jamais reconnu comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais leur vie, Seigneur, tant que celle de ceux qui s'éloignent est tout aussi importante. Et tu es mort pour l'un et pour l'autre. Il est donc de notre responsabilité, oui, Seigneur, de travailler à l'évangélisation de ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi travailler, Seigneur, à ramener dans la bergerie ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui se sont éloignés de toi. Je prie, Seigneur, s'il s'en trouve ce matin, qui étaient effectivement partis sur une voie qui les éloigne de toi. Je prie, Seigneur, que tu leur parles. Je prie que les mots que nous avons partagés ce matin soient aussi pour eux, Seigneur, un rappel à l'ordre, afin, Seigneur, qu'ils reviennent dans tes voies, qu'ils reviennent à la recherche de ta volonté pour leur vie. Qu'ils reviennent, Seigneur, auprès de ce qu'ils avaient déclaré comme étant vrai, véridique et véritable. Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Parle à leur cœur, parle à leur âme et à leur esprit ce matin. Et accorde-leur la grâce, Seigneur, de revenir dans les rangs. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu les aimes et que tu prends soin de chacun d'entre nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, laissez-moi remonter un peu pour voir qui s'est joint à nous ce matin. Vous êtes encore une fois nombreux et on s'en réjouit. C'est vraiment un honneur de vous retrouver, une grâce de vous retrouver à chaque matin. Là, donc je vais rester là pour l'instant. Simplement vous rappeler, avant qu'on salue les gens, vous rappeler l'importance de vous inscrire pour l'assemblée de dimanche si vous voulez assister en présentiel, donc sur place, dans nos locaux. Au vu de ce qui se passe actuellement et de la recrudescence des cas, plusieurs pensent que les normes de la santé publique vont bientôt se resserrer. Est-ce que ça va être un resserrement aussi au niveau des lieux de culte? Pour l'instant, on n'en parle pas, mais il se pourrait que dans un effort de société, dans un effort collectif, on demande encore une fois aux églises aussi de stopper leur rassemblement. Donc, profitons du temps qu'on a. On essaie, nous, de le faire de façon très prudente, en respectant non seulement toutes les normes que le gouvernement nous impose, mais en mettant même un peu plus, parce qu'on veut s'assurer, d'une part, d'être de bons citoyens, deuxièmement, s'assurer de protéger nos plus fragiles au sein de la congrégation. Plusieurs personnes sont relativement âgées dans la congrégation, donc on veut les préserver, on veut les protéger face au virus, et on veut aussi préserver le nom de l'Église face à la communauté. On ne veut pas dire que l'Église aura été par mépris des normes de santé publique et par imprudence que l'Église aurait été un vecteur de contagion, mais on veut que si on parle de nous, on puisse parler aussi comme quoi nous avons fait notre part, notre travail, en respectant ce que César demandait. La Bible nous dit d'être soumis aux autorités, donc on ne nous interdit pas de louer Dieu, on ne nous interdit pas de prêcher l'Évangile, on nous dit juste de le faire d'une façon prudente, dont le port du masque, dont le maintien de la distanciation au niveau des lieux de rencontre, et voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, on ne sait pas si les normes vont se resserrer à travers les prochaines journées. On s'attend qu'il y ait des mesures en ce sens qui soient mises de l'avant. Donc, d'ici là, vous savez que vous pouvez vous inscrire, à moins qu'il y ait un changement. On s'attend à pouvoir accommoder, recevoir 100 personnes par culte le dimanche matin. Donc, si vous voulez y assister encore ce dimanche, vous avez l'occasion de le faire pour vous inscrire. Vous appelez au secrétariat de l'Église. Pour ceux qui ont un crayon, c'est le 514-273-8295. Sinon, vous cherchez sur Google ou sur la page web de l'Église, vous allez trouver notre numéro de téléphone. Et là, vous nous indiquez votre nom. Vous nous indiquez un numéro de téléphone valide dans lequel on peut vous contacter ou vous nous indiquez une adresse email dans laquelle on peut vous écrire qui est tout à fait valide et que vous consultez parce qu'on doit confirmer avec vous votre présence. Et vous nous indiquez aussi le nom de toutes les personnes qui vous accompagneront pour l'assemblée. Actuellement, la limite, c'est d'avoir tout simplement 12 ans et plus. Donc, si vous avez 12 ans, si les personnes qui vous accompagnent ont 12 ans, vous pouvez vous inscrire. Donc, soit par le numéro de téléphone, sinon par le courriel de l'Église. Je vous l'indique à l'instant. Secrétariat EAJC. Secrétariat EAJC. En un seul mot, sans accent, @commercial.gmail.com. Donc, je répète, secrétariat EAJC, @commercial.gmail.com. Donc, faites vite, il y a déjà des gens qui s'inscrivent. Le téléphone est en train de sonner dans le secrétariat, donc je suppose que certains d'entre vous ont entendu le message et veulent s'inscrire. Donc, faites vite, inscrivez-vous. Et on a 2 journées dans lesquelles habituellement on vous rappelle pour confirmer votre présence. On a le mercredi soir avec la sœur Patricia et on a le vendredi matin ou le vendredi en journée avec ma mère, la sœur Paulette. Donc, inscrivez-vous par téléphone, par courriel pour être là ce dimanche. Sur ce, notre prochain rendez-vous demain matin, même heure, même poste, à partir de 8h30, même un peu avant, pour permettre des salutations. On se retrouve pour la bénédiction matinale de mercredi, donc demain matin. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et puis veillez à ramener des frères et des sœurs dans le droit chemin. Que Dieu vous bénisse.